La marge, c'est le nerf de la guerre pour tout investisseur immobilier. Alors quand on se lance dans une opération d'achat-revente, la question est cruciale. Quelle marge viser pour que ce soit rentable? Et la réponse est loin d'être évidente. 15%, c'est le seuil que certains recommandent. Et 20%, ça semble un peu plus intéressant, mais est-ce vraiment suffisant pour couvrir les risques? À 30% et plus, là, ça commence à devenir sérieux. C'est ce qui est venu expliquer Sylvain Turbet, marchand de main expérimenté, au micro du podcast de La Bonne Fortune lors de l'épisode 60. Il nous explique l'univers passionnant de l'activité de marchand de biens. Il revient en détail sur ses premiers flips et on analyse ensemble et en profondeur une opération d'achat-revente proposée sur lebonflip.com, la plateforme d'investissement collaborative. Et si tu veux en savoir plus, j'ai préparé une vidéo et un dossier complet avec tous les chiffres de ce flip immobilier en cours. Tu peux les télécharger depuis le lien que tu trouveras dans la description de cet épisode ou directement depuis lebonflip.com/vidéo. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir cette nouvelle émission.
Aujourd'hui, on est sur un univers qui est complètement légal, sur lequel il y a beaucoup d'amalgames. En 1972, par exemple, tu as eu le Amway Act aux États-Unis qui a légiféré entre qu'est-ce qui est pyramidal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc en fait, c'est un univers où il y a beaucoup d'ignorance aujourd'hui et d'idées reçues, où avec les réseaux sociaux, parfois, il y a beaucoup de confusion. On voit des sociétés qui se disent des sociétés de MLM, mais qui n'en sont pas.
Le Ponzi, tout simplement, c'est que je vais investir de l'argent et les intérêts qu'on me promet seront financés par le prochain qui arrive. Et à un moment donné, bon bah si tout le monde veut retirer son capital, tac, ah bah il n'y a plus assez de fonds pour rembourser tout le monde. Donc première idée, c'est que l'important, c'est qu'il y a du produit. Voilà. Le produit physique garantit que nous ne sommes pas sur un système de Ponzi.
Ça ouvre des possibilités qui sont bien loin de la réunion de Tupperware avec Tati Janine et Tonton Albert. Donc on n'est plus dans ce monde-là.
Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, de recevoir non pas un mais deux invités. Ça va être la première émission où on va être à trois. C'est top. J'ai le plaisir de recevoir Dominique Sault et Fabien Harel, où on va faire une émission. On va parler forcément un petit peu d'investissement, de finances, etc. Mais avec une approche plutôt s'investir, investir en soi et s'investir éventuellement dans un réseau où on va décortiquer un petit peu le MLM, le marketing de réseau, le multi-level marketing, appelons ça de façon que vous le souhaitez. Salut Dominique, salut Fabien.
Bonjour Ismaël.
Salut Ismaël.
Yes, alors c'est un plaisir de vous recevoir. Je vais vous laisser vous présenter succinctement en quelques secondes, mais vous êtes tous les deux. Alors Dominique, tu es le fondateur de Développement Global. Et Fabien, toi, tu es un ancien pompier, hein, tu pourrais y revenir, etc., où tu t'es investi justement dans le marketing relationnel à travers notamment Développement Global. Et aujourd'hui, depuis peu, hein, si je dis pas de bêtises, tu as réussi à avoir des résultats qui t'ont permis de switcher un petit peu et de te réorienter pour notamment avec des objectifs de te rapprocher de ton domicile, si je dis pas de bêtises, etc., etc. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement chacun en quelques secondes pour les auditeurs qui nous écoutent, et puis après on va pouvoir décortiquer un petit peu tous les attraits du MLM, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'idées reçues peut-être à casser ou à conforter, et ça va être une émission vraiment passionnante autour de ce thème.
Ben écoute Ismaël, merci pour l'accueil tout d'abord, et ben j'embraye le pas, hein. Excuse-moi Dominique. Donc moi c'est Fabien, j'ai 33 ans, et donc j'ai eu une carrière de pompier de Paris pendant 13 ans, auquel j'ai mis un terme cet été. La raison c'est que il y a 2 ans, en fait j'ai découvert le marketing de réseau, et en fait j'étais en pleine recherche de pouvoir entreprendre, donc je recherchais des modèles économiques, et pendant 2 ans en fait je me suis essayé à temps partiel, c'est-à-dire que j'avais mon activité à temps plein de pompier, et sur le côté je développais cette entreprise de marketing relationnel. Et il s'avérait en fait que c'était le modèle qui me correspondait carrément. Et j'ai décidé il y a cet été en fait de quitter mon emploi de pompier de Paris pour développer cette activité à temps plein, parce que très clairement, elle m'a permis aujourd'hui de pouvoir redescendre dans le sud-ouest, quitter Paris, profiter de ma vie de famille aussi, m'organiser autour de mes enfants. Et maintenant, j'ai à cœur de pouvoir développer ce modèle et accompagner aussi mes partenaires à développer aussi leurs projets.
Il y a beaucoup de pompiers qui sont soit investisseurs, entrepreneurs en parallèle, qui sont assez bosseurs dans l'ensemble et qui aiment entreprendre. Il y a énormément de pompiers et militaires, et ou les deux, dans ton cas, pompiers de Paris. Et ouais, c'est assez intéressant. Merci, Fabien.
Et pour ma part, alors du coup, moi j'ai 49 ans, donc en fait j'ai démarré finalement avec une carrière classique, école de commerce, salarié. Je venais pas d'un milieu d'entrepreneur, donc jamais j'avais eu trop. Alors j'avais ce fantasme-là de dire tiens, et si tu te mettais à ton compte. Et en réalité, j'ai eu la chance d'être salarié pendant 8 ans d'une société qui était organisée en réseau MLM, hein, on va revenir là-dessus parce que y a plein de nuances à préciser, et qui développait des produits financiers. Donc ça m'a donné deux casquettes. D'abord la casquette du conseil en gestion de patrimoine et de tout ce qui touche à la finance. Et puis ça m'a donné aussi la casquette de la compréhension de ces modèles qui créent de l'emploi avec la possibilité de développer des réseaux indépendants jusqu'au jour où mon épouse a mis la main dans le secteur santé-bien-être sur une très très belle société. Et à partir de là, j'ai voulu au départ l'aider à développer son projet, et puis je suis tombé dedans complètement, et ça a complètement transformé notre vie, nos orientations de carrière, et voilà, et on va pouvoir en discuter avec plaisir.
Dans l'introduction, je parle de marketing relationnel, de multi-level marketing, de marketing de réseau. Quelle est la bonne appellation pour ce business model, pour ce type d'entreprise, ce type de modèle entrepreneurial?
C'est la bonne question, en fait, Ismaël. Et d'abord, bravo, parce qu'aujourd'hui, en France, on a tellement de retard sur ce modèle. Je pense que tu vas faire un très beau cadeau à tes auditeurs en leur permettant d'y voir plus clair sur des modèles vis-à-vis desquels, parfois, on les écarte d'un revers de la main sans trop savoir de ce dont il est question. Donc nous, on aborde ça d'une manière ultra pro, parce qu'on rigole pas avec la carrière, on rigole pas avec la sécurité financière, même si on va le faire chacun à son rythme. Donc d'abord, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que le marketing de réseau, ça c'est l'appellation, le marketing de réseau, c'est trois métiers. Tu as les métiers de la vente directe, les métiers du marketing relationnel et les métiers du MLM, le marketing en multiniveau, multi-level marketing. Et ces trois métiers amènent sur des territoires de jeu, compétences, ambitions, possibilités financières complètement différentes. Et c'est là qu'il y a énormément de confusion en France. C'est que en France, par exemple, on va associer le marketing de réseau à la vente directe. Or, la vente directe, c'est un métier de vente, donc c'est très sympa. Ça permet à des gens, en général, de compléter des revenus, de pouvoir faire peut-être des actions qui permettent de sortir un salaire professionnel. Mais ça n'est qu'un aspect de ce qu'on peut faire avec le marketing de réseau. Ça, c'est la vente. Et les gens, en général, vis-à-vis de la vente, ont un peu de réticence. Le deuxième métier, c'est le marketing relationnel. Ça s'ouvre à tous. Marketing relationnel, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille, qu'on peut aujourd'hui faire par le digital, qu'on appellera l'affiliation. Ça, c'est une manière de faire de la recommandation rémunérée. Ça prend pas de temps et tout le monde peut le faire. Donc ça, c'est 100% des gens. Et puis après, il y a quelque chose qui est une niche très mal connue qu'on appelle le multi-level marketing, le marketing multiniveau ou le MLM. Et ici, on crée carrément une organisation commerciale et marketing avec la possibilité de faire du management, de la formation, du coaching et d'accompagner tout un ensemble de personnes vers le succès. Donc là, c'est un vrai rôle d'accompagnateur, de manager. Et c'est celui-là qui est souvent décrié et pourtant qui ne va concerner que 2% des gens en réalité.
Ok, d'accord. Ouais. Le MLM, tu parles, c'est vrai, en France, il y a peut-être un retard ou certaines incompréhensions, en tout cas par rapport à ce type de business. Ça vient d'où ? Ça vient des États-Unis ?
Oui, à la base, on peut considérer qu'on a 150 ans de recul sur ces activités-là. Au départ, c'est parti de manière assez simple. On est dans une lecture classique de l'économie. Aujourd'hui, on a des entreprises. Depuis que le monde est monde, toutes les entreprises cherchent à trouver des clients. Donc, en fait, elles ont des produits ou des services à vendre. Et la majorité des entreprises ont leur service commercial intégré. Eh bien, il y a des sociétés qui ont décidé d'externaliser, c'est-à-dire elles vont permettre à des gens qui sont des indépendants de prendre part au projet de l'entreprise. Et au final ben, de décider à leur rythme, le temps qu'elles le décident, pour les objectifs financiers qu'elles décident, de devenir des partenaires indépendants de ces sociétés-là. Donc 150 ans de recul, les 10 dernières années ont complètement révolutionné tout ça parce que le digital, d'un claquement de doigts, nous permet de travailler avec l'international, de faire des choses beaucoup plus spectaculaires. Et puis, la loi est passée par là. Donc aujourd'hui, on est sur un univers qui est complètement légal, sur lequel il y a beaucoup d'amalgames. Il y a eu, en 1972, par exemple, tu as eu le Amway Act aux États-Unis qui a légiféré entre qu'est-ce qui est pyramidal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc en fait, c'est un univers où il y a beaucoup, beaucoup d'ignorance aujourd'hui et d'idées reçues, où avec les réseaux sociaux, parfois, il y a beaucoup de confusion. On voit des caricatures, où on voit des sociétés qui se disent des sociétés de MLM, mais qui n'en sont pas. Voilà, donc je recommande le site businessforhomme.org par exemple, pour tous ceux qui veulent vérifier qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ce marché. Il faut comprendre aujourd'hui que c'est un pan de l'économie énorme. C'est 200 milliards de chiffre d'affaires à l'international, c'est 100 millions de personnes impliquées, donc c'est pas qu'un gadget. Et en France, on a notamment la Fédération de la Vente Directe qui va réguler en partenariat avec le Pôle emploi ce type de métier, mais qui peut être un peu réductrice parce que du coup dans Vente Directe il y a vente et comme je viens de l'expliquer, ça n'est qu'un aspect du métier.
D'accord, on y voit un petit peu tout de suite plus clair. Donc les trois aspects, la vente directe, le marketing relationnel, donc le bouche à oreille, et le multi-level marketing, donc un rôle un peu plus manager, un peu plus exactement. Un rôle un peu plus global. Ok, ouais. tu parles de système pyramidal, Dominique, et là je vais peut-être te donner la parole, Fabien. C'est vrai, c'est souvent associé, et moi le premier, hein, par mes connaissances jadis, j'avais peut-être la vision, encore une fois par ignorance, d'un système comme une pyramide de Ponzi, où l'idée, certes, il y avait, je vais prendre l'exemple Tupperware, qui est peut-être un des exemples les plus connus, les dames qui viennent au foyer, etc., pour vendre ces fameux Tupperware, etc., très très pratique à la maison pour cuisiner, stocker, etc., mais que d'une part, elles étaient rémunérées sur la vente en direct, mais aussi d'autre part, on peut penser où on est rémunéré pour faire rentrer du monde dans le réseau, de nouveaux vendeurs, et l'idée, c'est un peu ça, de faire tout le temps rentrer du monde, et que des fois, le système se base, entre guillemets, uniquement là-dessus, comme un système de Ponzi. Dès lors que du monde ne rentre plus par le dessous, ou vous allez expliquer après les différentes méthodes, les différentes branches, affiliations, etc., au final, le système ne fonctionne plus et s'écroule, en quelque sorte. Et vous avez peut-être des exemples, j'en ai pas comme ça à vous citer, mais peut-être d'entreprises, comme tu le citais, Dominique, qui se disent entreprises marketing de réseau, mais qui n'en sont pas, qui sont vraiment des systèmes de Ponzi. Je pense qu'il y a eu des affaires, des jurisprudences, etc. Enfin, ou en tout cas, des affaires qui ont été jugées et des entreprises qui ont été un petit peu bannies comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette image qui est présente de pyramide de Ponzi, de fausses bonnes idées, parce que l'idée, c'est tout le temps de faire rentrer plus de monde et qu'au final, l'entreprise ne tient que là-dessus.
Ouais. Et super, hein, Ismaël, d'aborder ce sujet-là, parce que c'est très clairement le sentiment que j'ai eu, moi, quand je suis rentré. En fait, au début, parce que j'avais mes connaissances, donc je me dis, on me parlait de système de Ponzi, etc. Mais tout de même, j'ai eu cette ouverture d'esprit de creuser, en fait, très clairement ces modèles-là. C'est notamment, je pense à l'affaire Madoff, Ponzi, et de véritablement savoir qu'est-ce qu'un système de Ponzi. Je suis investisseur aussi comme toi, et le Ponzi, tout simplement, c'est que je vais investir de l'argent et les intérêts qu'on promet seront financés par le prochain qui arrive. Et à un moment donné, si je veux tout le monde veut retirer son capital, tac, il n'y a plus assez de fonds pour rembourser tout le monde. Donc, première idée, c'est que l'important, c'est qu'il y a du produit. Voilà. Le produit physique garantit que nous ne sommes pas sur un système de Ponzi. Et en fait, on n'échappe pas à l'entreprise traditionnelle. Si on devait demain monter une start-up, j'aurais une gamme de produits. Moi tout seul, je ne pourrais pas aller chercher le client. Donc, je vais devoir m'organiser pour trouver des directeurs commerciaux, généraux, de la RH, de la logistique, etc. Et commencer. Et après, des managers et des vendeurs pour enfin écouler le produit. Donc là, on est sur de l'entreprise traditionnelle. Marketing de réseau, au final, ça serait la même idée. C'est que je suis, moi, associé à une gamme de produits ou de services, à moi de développer un réseau de distribution pour aller toucher le client. Ce qui est super, c'est qu'avec le marketing de réseau, on peut s'essayer, en fait. On peut s'essayer parce que on a vu les trois métiers. Moi, je suis rentré par la porte, je veux faire du e-commerce. Donc, je me suis essayé à faire de la vente, de produits en physique et en digital. Mais j'ai compris l'intérêt surtout d'avoir un réseau et d'aller rechercher en fait une équipe de vente, si je puis dire. Et ce qui est super, c'est que quand on construit un réseau, en fait, on va donner la chance à chacun de pouvoir être à la tête de son réseau de distribution, mais aucune obligation. Pour donner une analogie toute simple, je pourrais me dire, j'ai une gamme de cosmétiques, et ben je vais aller démarcher comme un commercial 1000 esthéticiennes qui vont, elles, faire du commerce traditionnel comme une franchise, hop, écouler du produit. Et moi, la société, grâce à moi, elle a connu ces esthéticiennes et je suis intéressé à un index sur le chiffre d'affaires généré. Une esthéticienne ferait 1000 euros de chiffre d'affaires, moi, je gagnerais au bas mot 50 euros. Donc, elle gagne plus que moi, je gagne moins. Mais en revanche, si je démultiplie, je complète et j'augmente mes revenus. Mais l'idée, c'est que ça, c'est un métier pour le coup. Et aller faire du B2B, c'est assez délicat quand on n'a pas de compétences. En revanche, avec le marketing de réseau sur des bonnes sociétés, on permet à d'autres de pouvoir éventuellement faire la même chose. Et si je suis en capacité à développer un réseau de 100 partenaires, 1000 partenaires qui connaissent une esthéticienne, comprends bien là que là, du coup, on démultiplie parce qu'on a 1000 esthéticiennes en bout et qui, eux, touchent le client. Et je sais que par la réintermédiation, tous mes partenaires vont avoir des index avec des clés de rémunération qui sont éthiques, légales, qui sont ancrées dans le marbre et qui sont les mêmes pour tout le monde. Et qui fait que du coup, chacun va avoir à son niveau des intérêts économiques. C'est en ce sens où du coup, le marketing réseau, et quand on comprend les rouages, est vraiment puissant parce que, franchement, l'analogie aussi, c'est tu rentres caissière chez Carrefour, quelle est la probabilité que tu puisses à ton tour développer un Carrefour ? Très minime. Tu rentres caissière dans un marketing réseau, la probabilité, la possibilité que tu puisses être à la tête de ton réseau, elle augmente parce que tu as les mêmes règles du jeu et du coup, c'est ce qu'on apprend justement à nos partenaires.
Ouais, c'est un super exemple. C'est un super exemple. Si je peux me permettre, j'ai envie de rebondir sur son truc pour que les gens comprennent bien, parce que les gens on manque tellement cruellement. L'école nous forme aujourd'hui à bosser pour quelqu'un d'autre. L'école ne nous forme pas à être autonome financièrement. C'est-à-dire que l'investissement et l'entrepreneuriat sont deux notions qui nous échappent. Mais si je rebondis sur l'image de Fab que je trouve top, la personne qui est caissière et qui pourrait avoir le sentiment que peut-être c'est un métier qui socialement est mal reconnu, en réalité, si demain elle excelle dans son métier au point de pouvoir à son tour former d'autres caissières et pourquoi pas mettre en route une organisation d'autres caissières et que Carrefour lui permettait d'être payé non pas au salaire qu'elle y passe, mais plutôt en pourcentage de finalement cette fonction qu'elle développe en équipe. Alors là, on aurait la possibilité de devenir comme un chef d'entreprise qui va avoir à cœur d'animer un réseau de caissières indépendantes. Et peut-être que là, les caissières pourraient mieux choisir leurs horaires, mieux s'organiser, elles veulent bosser plus, et elles peuvent recruter et à leur tour implanter le même métier dans une autre ville. Ça, c'est pour l'analogie. L'autre élément, c'est sur le plan de l'économie, de comprendre que tous ces modèles-là sont en avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, je prends récemment, par exemple, je suis resté assis dans mon canapé. Alors, j'étais déjà assis, si tu veux, je regardais la télé et je regardais une pub de Dyson l'aspirateur. Bon, Dyson l'aspirateur, tu suis la pub et à la fin de la pub à la télé, tout le monde peut aller le vérifier sur Internet. Le gars nous dit Dyson.fr, achetez-le chez ceux qui le fabriquent. Et ça, c'est un indice incroyable de l'évolution de l'économie. Aujourd'hui, il faut comprendre que tu as une marque qui s'appelle Boulanger. Et Boulanger, aujourd'hui, ce sont des franchisés. Et Boulanger, il distribue du Dyson. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, toi, tu as monté ta franchise Boulanger, tu fais confiance à tes fournisseurs, en particulier Dyson, tu as mis une énorme tête de gondole pour avoir les super aspirateurs et bien les présenter et prendre ta marge quand toi, tu vends. Le problème, c'est que du jour au lendemain, t'as ton fournisseur qui te l'a fait un petit peu à l'envers et qui dit aux gens, finalement, arrêtez de l'acheter chez Boulanger, venez l'acheter chez moi. Et la question qui va venir, c'est, mais est-ce qu'on va le payer le même prix? Parce que si j'ai plus la marge à donner à Boulanger, est-ce que ça veut dire que si j'achète sur le site de Dyson, ça va me coûter moins cher? Sans doute que non. Parce que ce que va faire Dyson demain, c'est qu'il va te proposer à toi, à des gens comme Fabien, des gens comme moi, à monsieur tout le monde, pourquoi pas de devenir un ambassadeur de la marque Dyson et nous donner une commission. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce phénomène s'appelle la réintermédiation. Les intermédiaires d'hier seront plus les intermédiaires de demain. Et ça, c'est une chance incroyable pour nous de prendre part à des modèles économiques où hier, il fallait faire partie du sérail et où aujourd'hui, on peut être monsieur tout le monde et prendre part à un business model. Et la deuxième idée, c'est la plateformisation. Alors, on a parlé d'ubérisation il y a quelque temps. On fait attention avec ubérisation parce qu'après, il y a eu des connotations de gouvernance d'entreprise. Mais ce qui est très important de saisir pour les gens qui t'écoutent dans ton podcast, c'est que La technologie fait évoluer les choses. On parle chez nous du leapfrog. Le leapfrog, c'est le saut de la grenouille. Ça veut dire que on va plus travailler aujourd'hui en 2022 comme on travaillait il y a quelques années. Le progrès est passé par là. Donc par exemple, le leapfrog dans l'énergie, c'est que on va plus passer aujourd'hui par l'énergie nucléaire, on va directement à l'énergie renouvelable. Dans la téléphonie, on va pas chercher des téléphones avec des câbles et des poteaux, on va direct au cellulaire. Et bien dans l'emploi, on va profiter du digital, on n'a plus besoin d'un bureau. On n'a plus besoin d'un commerce, on n'a plus besoin d'une usine pour aller bosser. On peut prendre le digital, son téléphone portable. J'ai une appli avec une société qui est peut-être à l'autre bout du monde, mais qui me donne des moyens pour travailler, qui, elle, va s'occuper de toute la logistique, les livraisons, les stocks, le marketing, tout ce qu'a évoqué Fabien tout à l'heure. Et moi, depuis chez moi, de là où je veux, je peux devenir un partenaire économique de cette société selon mes propres règles. C'est ça la révolution qui est en train de se passer sous nos yeux, et ces sociétés permettent à tout un chacun d'y prendre part.
D'accord. Et donc, si je peux faire une petite synthèse un petit peu de cette belle introduction, c'est un petit peu le rendez-vous entre un vendeur direct classique qui va vendre un produit, qui va être rémunéré pour la vente, quelqu'un qui va vouloir développer un réseau, on pourrait dire un peu une petite boîte, une petite entreprise à son niveau en fonction de ses compétences, ses moyens, et qui va utiliser pour ça l'outil, est-ce que c'est de l'affiliation, je sais pas, mais qui va intéresser son réseau avec de l'affiliation, et lui-même va être intéressé via de l'affiliation, un peu comme on va pouvoir retrouver aujourd'hui, c'est très très démocratisé, on voit les programmes Amazon Affiliate, etc. Exactement. Etc. Ou si on recommande un produit, on a une petite commission qui tombe, etc., parce qu'on a fait l'intermédiaire et qu'on a poussé le produit, et voilà. Donc c'est un petit peu la fusion de tout ce monde avec donc ce business économique qui veut rémunérer la personne qui s'engage, qui s'investit dans le réseau sur ces différents niveaux en quelque sorte.
Fab a pris l'analogie avec une start-up et je pense qu'il insistera tout à l'heure parce que il a vraiment eu, lui, la bonne vision du sujet. Mais regarde, on monterait tous les trois, là on serait en train de se dire, en effet on monte une start-up, il nous faudrait de toute façon payer des vendeurs, mais il nous faudrait aussi payer des managers. Par exemple, une direction commerciale, elle est payée parce qu'il y a des équipes de vente qui font le chiffre et puis il y a un pourcentage qui va venir au directeur commercial. Et puis il y a un pourcentage qui va payer les services fonctionnels, les gens qui ont fait le recrutement, les gens qui s'occupent des services support dans une entreprise, la direction générale. Donc en fait, on est exactement dans la même histoire. La société va ce type de société, et on pourra rentrer dans les fondamentaux parce qu'il ne faut pas se tromper d'entreprise. Il faut développer le discernement qui permet de choisir le bon véhicule. Le marketing de réseau est une autoroute. Dessus, tu vas trouver aussi bien des Lada que des Maserati. Et à côté du véhicule, il va bien falloir aussi faire attention aux chauffeurs, parce que des fois, tu peux avoir des chauffards qui conduisent une Maserati. Donc, ça fait tout un ensemble de pièges qui font la mauvaise réputation parce que les gens n'entendent parler que des accidents. Mais à l'inverse, on va pouvoir aujourd'hui choisir la société. Alors, si une société aujourd'hui te dit « moi, je vais externaliser », une société efficace dans ce domaine-là va consacrer 50% de son chiffre d'affaires à son réseau. C'est-à-dire que quand nous, on travaille avec une société qui pèse plus d'un milliard de chiffre d'affaires à l'année, elle redescend plus de 500 millions de dollars à des indépendants dans 147 pays. Elle permet à des gens comme nous de créer des emplois en local, payer nos impôts en local, parce qu'elle a externalisé. Donc en fait, avec ces 50%, on est capable aussi bien de payer des ventes, mais on est capable de payer de l'encadrement commercial, et on est capable de payer de l'animation, de la formation, et on aide les gens à se développer grâce à ça. Et donc ces sociétés vont permettre de répartir la marge autrement pour développer du chiffre d'affaires en fait.
Tu parlais de 100 millions de personnes à peu près là, donc qui étaient membres d'un réseau. Ça, c'était un business qui générait 200 milliards d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires oui. D'un point de vue global sur la planète. Qu'est-ce que ça pèse en France? Est-ce que tu as des stats, des chiffres un peu plus locales oui. Sur la France ou les États-Unis ou contrebalancer un petit peu, voir un petit peu les différences d'une façon générale pour finir d'avoir une vision un petit peu globale de ce marché?
Oui, en France, en fait, c'est 700 000 personnes, à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires annuel. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, on l'aborde, on va sans doute revenir après sur l'approche investissement, parce que on l'aborde, nous, vraiment comme une stratégie. C'est-à-dire que c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui n'en est qu'au balbutiement, on n'est qu'au tout début, parce qu'on on amène surtout aux gens la possibilité d'entreprendre. Par exemple, un pays comme la Hongrie, dans la société avec laquelle on travaille, c'est un pays de 10 millions d'habitants, mais qui connaît la plus grosse croissance au niveau européen. Pourquoi ? Parce que ce sont des populations qui cherchent à se développer. Je parlais du leapfrog tout à l'heure, on est en train de travailler des choses incroyables avec l'Afrique. Par exemple, avec l'Afrique francophone, on va pouvoir aider les gens dans des zones du monde où il n'y a peut-être pas une économie locale super simple à développer. Bah, grâce au digital, ils vont pouvoir avoir une licence de partenariat comme une franchise dans leur pays d'origine et travailler avec d'autres parties du monde et ramener les devises au pays. Alors là, je le caricature par rapport à l'Afrique, on le fait aussi par rapport à l'Ariège ou des régions où il fait bon vivre, mais où il n'y a pas forcément de boîtes en fait qui peuvent créer de l'emploi. Donc en fait, grâce à ça, la personne qui voudrait finalement changer de ville, changer de région, peut tout à fait imaginer quitter les centres-villes et venir s'installer en province, et elle n'a pas besoin qu'il y ait une entreprise locale. Elle va pouvoir bosser avec une entreprise qui est peut-être à l'autre bout du monde, et elle, d'ailleurs, la personne va pouvoir aussi travailler avec l'autre bout du monde. Nous, on bosse avec des gens en Nouvelle-Calédonie, on bosse des gens en Afrique, à l'île de la Réunion, enfin, et aussi bien, moi je suis sur Toulouse et je peux bosser à l'autre bout de Toulouse par Zoom. Donc en fait, c'est le même job. Donc ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce concept de plateforme dont je parlais tout à l'heure, c'est que ça va révolutionner l'emploi. Et moi, j'invite notamment les professionnels, les cadres qui n'ont qu'une vision de leur job ou de leurs possibilités professionnelles traditionnelles, de dire ah ben tiens, j'ai toujours fait ça toute ma vie, je sais faire que ça, de se dire non, il y a des nouvelles options. On travaille par exemple avec des cabinets de recrutement et de chasseurs de tête aujourd'hui, qui nous aident à aller à la rencontre de commerciaux, directeurs généraux, qui au cap de la cinquantaine ne peuvent plus retrouver un emploi salarié. Par contre, c'est le moment de la vie où il faut trouver de l'argent parce qu'il y a les études des enfants, finir de payer la maison. Et du coup, dans ce contexte-là, on a, nous, capacité à employer les gens. Le gars qui a été directeur commercial pendant 20 ans, il sait faire ça. Si on lui montre une gamme de produits, si on lui dit, voilà, tu peux te développer ta carte blanche en France, en Europe, dans le monde, tu vas recruter tes collaborateurs, tu vas pouvoir les former, sachant qu'on amène derrière tout le bagage, ça ouvre des possibilités qui sont bien loin de la réunion de Tupperware avec Tati Janine et Tonton Albert. Donc, on n'est plus dans ce monde-là.
Ouais, super, merci. Tu me fais faire une transition parfaite, Dominique. Donc, on a vu que le marketing de réseau, c'est ni plus ni moins un outil, un business model à part entière, et que dedans, on y trouve de tout, de rien, comme on va pouvoir trouver des startups qui se crashent lamentablement parce qu'ils font des choix qui sont pas les bons, etc., etc. Donc, ça incombe plus à la personne comment elle le fait plutôt que au business model en question. Évoque encore une fois Tupperware, il y a cette image. Aujourd'hui, quel type d'activité, d'une façon générale, va être présente et va utiliser le marketing relationnel, d'une part, et puis, deuxième question qui fait la suite, qu'est-ce que vous proposez, d'une façon générale, avec développement global ? Est-ce qu'on va se retrouver à vendre, justement, ces Tupperware dans les chaumières ? Est-ce qu'on va faire... on a aussi l'image, il y a beaucoup de femmes aussi qui font autour de la lingerie, des réunions, etc., etc. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va trouver, d'une façon globale, en France, sur le marketing de réseau ? Quel type de produits et services qui vont utiliser ce business model, et puis vous, développement global, qu'est-ce que vous proposez? Et je sais que vous avez une approche aussi intéressante financière là-dessus.
Pour embrayer sur ta question, Ismaël, et avant d'y répondre, juste ça permet surtout aux gens de s'essayer à l'entrepreneuriat. Je m'explique, moi c'était mon histoire, c'est que à temps plein, voilà, on veut tous avoir mon moi.com, créer sa société et devenir le Elon Musk de demain. Sauf que ça, c'est réservé, malheureusement, qu'à une poignée de personnes. Et je croise différents rendez-vous, des gens qui s'essayent en tant qu'indépendants, toujours même schéma, assuré financièrement par l'assurance chômage, mais au fond, le business model de leur activité font que dans 2 ans, ils vont devoir reprendre un travail. Ça c'est attention. Là, je m'adresse à ton auditoire qui aimerait se lancer en tant qu'indépendant, tu sais, les coachs de vie, tous ceux qui sont experts, hein, etc., etc. Vérifiez votre business model parce qu'en fait, au final, vous êtes prisonnier de votre emploi. Enfin, vous avez créé votre emploi et ça ne changera pas la donne. Si vous n'avez pas un mécanisme de récurrence derrière, vous êtes voué à un certain échec. Ça, c'est la première idée.
Donc, d'une façon générale, je me permets de couper juste deux secondes. Donc, en gros, on aurait pu commencer par là, d'ailleurs, très, très bien. À qui ça s'adresse? Ça va s'adresser à des personnes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent développer une activité, qui ont plus ou moins de temps à consacrer pour développer une nouvelle activité, soit en parallèle de leur job actuel, soit en parallèle de différents projets, ou soit carrément, comme toi, tu l'as fait, s'investir à 100, 200, 300% et être focus là-dessus. Donc, ça s'adresse, voilà, à des personnes qui souhaitent développer d'autres activités.
C'est ça. Mais surtout parce que c'est un des raccourcis, c'est-à-dire que tout est créé. Aujourd'hui, les sociétés, il n'y a pas à conceptualiser les produits, ils sont faits. Le marketing, c'est fait. Les outils marketing sont faits, les sites e-commerce sont faits, la logistique est assurée, le service après-vente est assuré, la facturation est assurée, la comptabilité est assurée. Voilà, tous les services traditionnels d'une entreprise sont assurés par la maison mère. Nous, notre job, c'est juste de se concentrer sur le business et de ne pas m'occuper de toutes ces thématiques qui, en temps normal, en tant qu'indépendant, ma boîte, moi.com, je devrais m'occuper. Et quand je suis seul, bon courage. Donc moi, je me concentre à quoi ? À écouler du chiffre pour la boîte. Et je suis rémunéré pour ça. Ça qui est super. Et du coup, ça permet en fait à des gens qui veulent y consacrer 5 heures, 10 heures, 15 heures par semaine. Moi, ça a été mon histoire. Pompier à temps plein, Paris, on n'est pas soumis aux 35 heures. Tu sais très, très bien de quoi je parle. Et ben tout de même, sur le côté, j'ai pu me développer parce que tout est créé et surtout, le modèle, le mécanisme, le processus est éprouvé, duplicable. Et là, je me suis appuyé sur toute une dynamique équipe, parce que quand on rejoint un réseau, on n'est pas seul, on rejoint toute une équipe qui nous apprend à faire des choses qui marchent, tout simplement. Donc, c'est ça qui est super important.
Yes. Et nous, on a choisi de faire ça vraiment dans cet esprit d'investisseur entrepreneur. Tu vois, on l'a un petit peu évoqué en filigrane, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre que en France, on est très tourné sur l'État providence, en fait. Donc, on a l'impression qu'il va y avoir le Pôle emploi, la Sécu. Et en réalité, les gens devraient se poser des questions vis-à-vis de leurs revenus selon trois thèmes. C'est est-ce que j'ai diversifié mes revenus? Si je dépends que d'une seule source de revenus, je peux avoir un véritable problème si jamais tout d'un coup j'ai un problème avec mon plan A et que j'ai pas de plan B. Donc déjà l'idée de pouvoir diversifier ses revenus d'activité, c'est important, à côté de diversifier ses revenus du patrimoine. Et l'autre idée, c'est peut-être de développer ce qu'on pourrait appeler de la récurrence, c'est-à-dire pouvoir générer des revenus qui ne nécessitent pas, je travaille une fois, je suis payé plusieurs fois. Donc aujourd'hui, les gens devraient réfléchir à avoir des modèles, des business models qui créent de l'abonnement, par exemple, ou une adossée sur une consommation courante. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de secteur d'activité, par exemple. Et l'autre point, c'est l'effet de levier. Aujourd'hui, tous les gens qui ont une activité professionnelle qui dépend du temps qu'ils y passent ou qui sont payés à l'heure, là vraiment, il faut lire Robert Kiyosaki, il ne faut plus échanger son temps contre de l'argent. Donc ça, c'est l'effet de levier. Et l'effet de levier, ça consiste à comprendre que si je deviens compétent pour faire un truc, professionnellement, que je peux gagner ma vie, alors j'ai deux fonds de commerce. J'ai ce que je sais faire, et puis je pourrais l'enseigner à d'autres. Alors certains font de la formation, mais nous, on préfère aujourd'hui former des équipes qui vont nous permettre en fait d'élargir notre champ de possibilités, et plutôt que d'être seul avec ses petits bras à travailler avec notre productivité, si on est deux, on peut travailler deux fois plus. Si on est dix, on peut faire dix fois plus. Et si ces sociétés sont prêtes à nous payer au chiffre d'affaires d'un groupe et de répartir la valeur intelligemment entre nous, alors c'est quelque chose qui est super harmonieux et les possibilités de croissance sont spectaculaires. Avec en plus des valeurs qu'on a voulu développer chez nous, c'est-à-dire que chez nous, on regarde comment une grosse entreprise veut se développer, on regarde qu'est-ce qu'elle est prête à rémunérer, et du coup, en fonction de ça, on va investir et on va amener des services. Donc, ce qu'on a rajouté derrière, c'est des formations professionnelles, c'est des services digitaux, des services d'Internet, du web marketing aujourd'hui que les gens essayent de s'approprier, mais ça prend des années. Enfin, aujourd'hui, sur Internet, on nous explique la machine à lead, on nous explique comment on va pouvoir créer un business de zéro, mais il faut creuser un petit peu plus loin. C'est pas juste avoir des contacts, c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, nous, on a inversé le rapport. Plutôt que de prendre des sommes astronomiques à la formation et aux prestations de services de conseil, on va apporter nos services de formation et d'accompagnement gratuitement ou à prix coûtant, un peu comme une association, et on va faire le pari de se payer au chiffre d'affaires. Voilà. Et ça inverse le rapport de force. Un petit peu comme dans ce qu'on pourrait appeler du compagnonnage 3.0, tu sais, les compagnons du devoir, qui se, à l'époque, c'était les menuisiers, tout ça, les gens qui se transmettaient label ouvrage et qui finalement par le jeu du transfert de compétences essaimaient des professionnels un petit peu partout. Ces modèles économiques nous permettent de créer nos propres réseaux et d'avoir un intérêt sur le fait de créer de la valeur ensemble. Donc il y a quelque chose de très vertueux dans ces possibilités.
Pour revenir sur ta question, Ismaël, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réunis des personnes? Je mets dans la vente? Et ça, malheureusement, je mets les pieds dans le plat. C'est ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, c'est que les gens s'initient à être des vendeurs de produits comme ça d'un claquement de doigts, à réunir 2-3 copines, à faire des posts sur les réseaux sociaux. Mais des gens fuient, en fait. Moi, quand je vois ça, je fuis, en fait. Je trouve ça horrible. Ça pollue les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, qui a envie de ça? Qui a envie de ça? Et malheureusement, c'est que, comme disait Dominique, c'est la tendance en France, on a cette image-là et certaines sociétés prônent ce type d'activité de la vente directe. Mais quand on est de la vente, c'est un métier. Il faut des compétences pour ça. Donc, en lieu et place, et tu me vois bien, on est en podcast, mais tu me vois, est-ce que tu penses une seule seconde que je me serais amusé à réunir 2-3 pompiers de Paris et dire, hey, j'ai des crèmes à vous vendre, j'ai des produits, etc. Non, bien évidemment, et c'est pas du tout moi et j'ai pas envie de faire ça. En revanche, plus intelligemment, de se dire, moi, je ne vends pas de produits et c'est pas ma cam. En revanche, j'ai cette possibilité, avec cette baguette magique, de pouvoir proposer à éventuellement des gens qui adorent ça et leur dire, bah, écoutez, moi, j'ai une société qui propose une gamme de produits brevetés, exclusifs, avec tout l'accompagnement digital. Est-ce que vous seriez partant pour envisager ce type d'activité, si ça vous intéresse? Et surtout, encore mieux, trouver des personnes qui connaissent ce genre de personnes. Et c'est comme ça que, simplement, pour être simple pour les auditeurs, par la réintermédiation, par quelques poignées de main, tu tombes sur le professionnel du secteur. Ah tiens, hop, une esthéticienne est dans mon réseau. Elle, c'est son métier. Elle adore les produits et elle propose ça à sa clientèle. Donc elle fait son commerce traditionnel. Et en fait, toute la réintermédiation, comme le dit Dominique, a des clés de rémunération parce que sans eux, on n'aurait pas connu l'esthéticienne qui, elle, vend les produits au final. Et c'est comme ça qu'on touche le consommateur. Quand les gens se posent la question, oui, mais qui consomme? Eh ben, par le développement du réseau, on va tomber notamment sur des gens qui rentrent dans le réseau parce qu'ils trouvent les produits canons et ils ont accès au meilleur prix prégrossiste. Donc, ce sont des distributeurs consommateurs, donc c'est des clients, mais aussi parce que on va trouver des professionnels de la vente qui, eux, leur rôle, effectivement, ça va être de toucher le client. Voilà. Et là, le client est touché. Et là, c'est nos limites, parce que pour le coup, on n'est pas limité dans les possibilités de développement. Donc, à nous de jouer avec et de pouvoir proposer à différents partenaires de se développer. Et à terme, on touchera les professionnels qui, eux, vont vendre les produits.
Oui, bien sûr. Donc, j'ai bien compris, à chacun de trouver sa place et de trouver les personnes qui sont soit à l'aise avec la vente directe. Tu parles de l'esthéticienne, ça peut être la coiffeuse, hein, dans les cosmétiques, etc., etc. Soit dans le marketing relationnel, qui ont un fort réseau parce qu'ils ont des contacts, etc., etc. Et avec le digital, Dominique, tu évoquais le champ des possibles quasi infini aujourd'hui, où c'est plus facile que faire le porte-à-porte, etc. Et le côté un peu management, multi-level marketing, etc. Donc, à chaque fois, chacun de trouver sa place là-dedans en fonction de son appétit, ses compétences, etc. Qu'est-ce qui se fait quelle boîte ou quel type de produits sont reconnus un petit peu en France, etc. Et qu'est-ce que vous proposez in fine, en dehors de ce business model, quels produits et services vous avez en bout de DG, donc développement global, DG Partners?
Ouais. Alors d'abord, il faut comprendre que tout ça, encore une fois, moi je viens du monde de la finance, hein, donc on a analysé ça à froid. Il y a aussi des fois dans la vie, des fois il y a de la chance. Donc en fait, on a eu la chance de rencontrer des gens importants dans différents milieux. On a aussi été identifié par une grande entreprise, donc je vais y revenir. Mais si on regarde aujourd'hui, par exemple, pour les gens qui veulent étudier tout ça, je leur propose de regarder le site qui s'appelle DSA comme Direct Sales Association. C'est le DSA, en fait, il publie des rapports internationaux qui vont démontrer qu'aujourd'hui, sur les chiffres que je t'évoquais tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la cosmétique et la nutrition constituent à peu près 70% de tout ce secteur-là, pour des raisons assez évidentes au fond, économiquement parlant. D'abord, ça touche à l'humain. Donc, quand tu veux développer un réseau, il est extrêmement important de pouvoir travailler sur des produits où il n'y a pas de limite structurelle. Donc, des produits qui touchent tous les publics, c'est très intéressant. Des produits pour tout le monde, pour tous les jours. Ça, c'est le premier sujet. Donc, la nutrition, la cosmétique, ben, ça va nous ouvrir des secteurs d'activité qui sont à 360 degrés. Tout le monde connaît un coach sportif, tout le monde connaît une esthéticienne, tout le monde connaît un coiffeur, tout le monde connaît une parapharmacie. Donc, on est capable de travailler avec différentes personnes. Ça, c'est le premier sujet. L'autre point, c'est qu'on va se trouver avec ces activités en capacité d'être créatif. C'est-à-dire que on va pouvoir, nous, imaginer de créer, de montrer à des gens comment ils peuvent faire rentrer ça dans leur métier. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, notre principal axe de développement chez nous, c'est la crise économique. Pleine crise économique, les gens veulent un plan B. Donc, en fait, ces sociétés permettent d'apporter de l'emploi. Donc, si tu veux, tu as toujours deux produits. Tu as le produit, le secteur d'activité sur lequel tu es, mais tu as toujours le service que ça apporte. C'est-à-dire, permettre à quelqu'un de lancer son... c'est quelque chose de lancer une activité. Aujourd'hui, tu peux lancer une activité dans l'entreprise qu'on a choisie à partir de 30 euros. Et en 30 minutes, on est opérationnel. On a immédiatement des sites internet pour faire du commerce ou pour faire du recrutement. On a accès à des formations en ligne. On a accès à tout un ensemble de services. Donc, pour répondre à ta question sur le marché, je dirais aux gens de là aussi se mettre en situation de prendre du recul. Par exemple, en France, moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais dans un marketing de réseau en finance. Pourquoi j'y suis pas resté? Pour deux raisons. J'ai troqué le secteur de la finance pour aller vers le secteur de la santé et du bien-être, parce que la finance, c'est un métier. Et donc, si je voulais recruter des gens dans le secteur de la finance, c'était quasiment des gens qui devaient immédiatement en faire au moins un mi-temps, sinon un plein temps. On embarque les gens sur des caractéristiques métiers qui demandent des diplômes. Donc forcément, ma zone de couverture de déploiement massif, elle était plus réduite que sur le fait d'aller sur des secteurs d'activité plus, on va dire, plus grand public. Donc ça, c'est un des premiers métiers. La deuxième idée, elle est structurelle. Quand tu as un réseau qui part, le but, c'est de pouvoir permettre à ton réseau de gagner sa vie. C'est-à-dire, il faut regarder des sociétés qui sont capables de regarder le réseau de distribution comme le premier client. Finalement, le client final, celui qui va acheter les produits, c'est pas forcément celui qu'il faut regarder en premier. Ce qu'il faut regarder, c'est comment ta société va t'aider, toi, en tant que partenaire indépendant. Et donc, par exemple, tu as des secteurs d'activité qui ont forcément des limites. Si tu fais de l'immobilier, il y a des très beaux réseaux dans l'immobilier. Il y a même des réseaux d'expertise comptable qui fonctionnent comme ça. Il y a des réseaux de conseillers financiers. Mais la difficulté là, c'est que donc on a, premier sujet, un vrai métier. Deuxième sujet, il faut qu'il y ait du stock quasi illimité. Moi, j'ai bossé pour une entreprise où, à un moment donné, j'étais salarié à l'époque, le réseau était tellement efficace qu'ils vendaient plus de produits immobiliers qu'il n'y en avait à vendre sur le marché. Donc, c'était terrible parce que les mecs bossaient, ils avaient développé des ventes et en fait, il n'y avait pas assez de produits. Donc, il va falloir bien réfléchir à la société avec laquelle on va travailler. Nous, on a choisi de travailler avec une société qui permet d'avoir des ramifications à l'international, parce que du point de vue économique et financier, je pense qu'il est dangereux en 2022 de n'avoir que des intérêts économiques en Europe. L'Europe est un vieux continent. Le poumon économique aujourd'hui, c'est l'Asie. Demain, ce sera l'Afrique, des populations jeunes qui ont envie de se développer, qui prétendent un meilleur style de vie. Donc, il faut absolument travailler avec la possibilité de développer son entreprise dans des dimensions internationales. Donc là, ça laisse déjà, tu vois, on commence à avoir un petit peu le palmarès. Je vais choisir le bon secteur d'activité. Je vais choisir une dimension internationale. Et après, je vais choisir une société qui m'amène de bons outils. Et là, tu as à la fois les défauts des qualités. Plus ces entreprises ont de choses à proposer, nous, on bosse avec une entreprise où on peut très bien travailler pour un complément de revenu de 500 ou 1000 euros par mois, un salaire de cadre, 5-10 000 euros par mois, voire des salaires de patron, c'est-à-dire plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, puisque du coup, tu vas construire une organisation et évidemment, l'entreprise ne va te payer que parce que tu génères un chiffre d'affaires en équipe, comme ce serait le cas d'une filiale ou d'une direction commerciale. Donc, tout ça permet aux plus belles ambitions de se révéler. Donc voilà. Et nous, par rapport à ça, on s'est dit, mais nous, il faut qu'on soit un collectif d'entrepreneurs qui ne dépendent pas, enfin, qui gardent le contrôle. C'est-à-dire que on peut pas contrôler ce qu'une entreprise va faire. Si tu les entreprises avec lesquelles on bosse, quand tu fais du marketing de réseau, c'est ton fournisseur l'entreprise. Mm-hmm. Donc tu n'as pas la main. Tout d'un coup, le dirigeant peut péter un boulon, la gouvernance de l'entreprise peut changer, tu peux ne plus être en accord avec les valeurs. Donc nous, ce qu'on a voulu monter, c'est ce qu'on appelle un tiers de confiance. On a monté DG Partners, donc c'est sur le site développementglobal.fr, DG comme développement global ou prenez la direction générale de votre vie. Donc DG Partners, c'est des gens qui tout d'un coup partagent des valeurs communes et qui se disent, eh ben on va pas se laisser abattre par la crise, on va se redresser et on va regarder avec l'œil attentif et du bon sens quels sont les modèles économiques, quelles sont les entreprises qui fonctionnent. Et de là, on va choisir un fournisseur. Donc nous, on a choisi un fournisseur qui est une très belle boîte américaine qui aujourd'hui est internationale, créée en 2009, 12 ans d'historique, plus d'un milliard de chiffre d'affaires annuel, enfin un vrai spot qu'on a identifié comme étant l'entreprise à suivre dans ce secteur-là. Il n'y en a pas 36, on pourrait le détailler. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que si demain on a un problème avec notre fournisseur, ce qu'on crée surtout, c'est des habitudes de travail. Donc on va créer des formations, on a des méthodes, on s'adosse à des méthodes internationales dans ce domaine-là que je recommande, qui s'appelle GoPro. Donc faites-le comme un pro, de Eric Worre. Et c'est rigolo parce que ce gars-là qui fait référence dans ce milieu a appelé sa formation GoPro. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce secteur-là est tenu par des amateurs. Et moi, je lance un appel à ton audience. Si vous vous considérez comme des pros et que vous réfléchissez à emboîter un modèle économique d'avenir, je peux vous garantir qu'ici, il y a des vrais métiers à créer. On appelle ça le network marketing. Le networker deviendra demain un vrai job. Et donc, nous, voilà, c'est ça qu'on a voulu faire. On a voulu créer un havre de sécurité pour des gens qui ne savent pas trop par quel bout attraper l'entrepreneuriat. Fabien l'a dit. Des gens qui tout d'un coup se diraient, ben, je veux pas prendre de risques financiers, je peux pas forcément passer du tout au tout, je peux peut-être faire ça en parallèle de mon job, je peux m'essayer, mais si j'ai des ambitions de capitaine d'industrie et que j'ai déjà une équipe, etc., là, j'ai un environnement où tout est pensé pour moi. Il y a 800 salariés qui travaillent pour le réseau, on peut bosser l'international d'un clic. Donc, nous, on va monter les formations et les outils marketing qui permettent à des gens de prendre en main leur véhicule. Un petit peu comme quand tu fais du vélo, on va mettre les petits trous à l'arrière du vélo pour permettre aux gens de pas se cracher trop tôt. Parce que tu découvriras que quand les gens parlent de marketing de réseau, souvent ils te racontent des expériences, mais quand tu creuses un petit peu, ils ont pas eu de formation, ils ont pas eu d'accompagnement, ils savent pas trop par quel bout l'attraper. Tu vois, donc parce qu'on est dans quelque chose de nouveau aujourd'hui. Mmh. Et donc, nous, le pari qu'on a fait chez DG Partners et Développement Global, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va créer un environnement où on veut professionnaliser. Donc, on donne des cours en école de commerce, on travaille avec le Pôle emploi, on travaille avec des services de l'État, on travaille sur la reconversion professionnelle. Et donc, on va aider... Récemment, par exemple, on a aidé un gars qui est taxi. Et on c'est rigolo parce qu'on prenait le même taxi avec Fab. Et du coup, le gars tout d'un coup nous dit, tu comprends, je bosse de nuit maintenant parce que la journée, il y a trop de bouchons dans Paris, donc je gagne plus mon salaire horaire. Et là, on regarde son appui-tête et on lui dit, mais combien vous trimballez de personnes ? Il nous dit, moi, je trimballe à peu près 1000 personnes à l'arrière du taxi tous les mois. Et là, on lui dit, mais vous savez que sur votre appui-tête, on serait capable, nous, de vous mettre en route un partenariat pour 30 euros. Avec 30 euros, vous avez un partenariat avec une grosse entreprise. Vous pourriez mettre un QR code. Ça prendrait 10 secondes. On a tous ces outils en magasin. On vous met un QR code, une petite affichette et vous pourriez montrer vous pourriez en fait utiliser votre taxi un petit peu comme une régie publicitaire. Sauf que si quelqu'un achète avec un QR code en regardant une vidéo, pam, ça rentre dans votre poche immédiatement. Et du coup, vous êtes plus que taxi, vous êtes taxi et en quelque sorte un peu influenceur. C'est que vous aidez une entreprise à se faire connaître. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier ce que ces entreprises mettent sur la table et on va fabriquer des produits dérivés pour les faire rentrer dans le quotidien d'un coach sportif, dans le quotidien d'un taxi, le quotidien d'un coiffeur et aider ces gens à développer leurs revenus. Et c'est là-dessus, je pense que Fab a tilté et aujourd'hui se développe à fond. Ce qui est intéressant, c'est de voir que toi, Fabien, tu n'avais pas forcément de contact natif, t'étais pas issu de ce secteur, c'est ce que tu expliques. Mais aujourd'hui, tout d'un coup, tu as eu le déclic de te dire, mais en fait, le développement est illimité parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ça et qui savent pas que ça existe.
Ouais, complètement. Et parce que au début, moi, j'avais un problème de contact. Une fois, j'ai fait. C'est aussi une des objections des gens hein, et ça servira sûrement à tes auditeurs, Ismaël, c'est que au début, on en parle à ses amis, sa famille, etc. Et on se dit, s'ils me disent non, quoi d'autre ? Mais en fait, ça se muscle et on se rend compte au fil de cette aventure. Et on apprend ça à nos partenaires, à développer cette compétence de nouer de nouvelles relations. Et très simplement, et c'est là, on a une possibilité de contact illimité. Voilà, si les gens ont peur de contact, avec nous, vous n'aurez pas de problème de contact, soyez-en assurés. Et moi, ce que j'adore du coup, c'est opérer des stratégies pour les gens. Toi, Ismaël, qui est dans l'investissement, l'immobilier, etc., c'est on a un mécanisme financier qui va apporter, bien sûr, des revenus supplémentaires, mais un mécanisme de récurrence au même titre que si on investissait dans l'immobilier. Et la question, pour répondre à la question de ta question, Ismaël, pourquoi Fabien et Dominique ont choisi le secteur de santé et bien-être? Ça paraîtrait bizarre. Il y a un point clé, et toi, en tant que stratège, tu vas comprendre, c'est qu'on a des produits de consommation qui fait que, du coup, on a potentiellement tous les mois des gens qui se brossent les dents, qui se lavent les cheveux, qui se mettent de la crème, qui consomment des produits, qui fait que on a de la consommation régulière. Et je te fais une comparaison avec un autre marketing de réseau, les gens vont le connaître, ce fameux Thermomix. Voilà, Thermomix, Vorwerk. Vorwerk, je pose le Thermomix, c'est du marketing de réseau. On devient un distributeur que l'on rentre dans le réseau. Mais regarde bien, je vends du Thermomix, tu sais c'est quoi leur adage ? Produit garanti à vie. Comment veux-tu après qu'une fois que j'ai vendu mon Thermomix, je puisse re-solliciter le client pour le faire acheter un autre Thermomix ? Il est garanti à vie. Donc une fois que j'ai fait la vente, mon client, il est déjà perdu. Je n'ai plus ce phénomène de récurrence. D'où l'intérêt du coup, et en plus sur un secteur porteur, parce que le santé et le bien-être, c'est l'un des plus gros secteurs économiques au monde. Donc, bien évidemment, c'est ultra stratégique.
Bien clair. Après, c'est en effet, c'est un des plus gros marchés santé, bien-être, le sport, etc. Il y a plusieurs choses et vous avez choisi cet axe-là et c'est très très bien. Dominique, tu évoquais les différentes réussites possibles en fonction de son engagement, etc. On peut juste compléter ses revenus ou carrément se dégager un nouveau revenu plus ou moins important. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus, ou peut-être toi, Fabien, je ne sais pas, à titre personnel, ton parcours, etc., là-dessus, ou le business model, comment vous rémunérez les gens, comment ça s'organise, et quel investissement on doit faire, ou quel investissement on doit attendre à pouvoir faire pour pouvoir obtenir des résultats conséquents. Vous preniez l'exemple de l'immobilier. De construire un patrimoine, etc., etc. Il y a des possibilités immenses, plus ou moins rapides. Si on fait de l'achat-revente avec sa résidence principale, on peut faire une grosse plus-value en 6 mois de temps, 1 an de temps. Si on se construit un patrimoine sur le long terme, etc., ça va demander peut-être un peu plus de temps pour générer des revenus, etc. Mais ça demande dans tous les cas de l'investissement, du temps, de construire un réseau, de faire des travaux, etc., etc. Pour l'investissement passif sur les produits financiers plus classiques, pareil, on va mettre des billes, ça va demander plus ou moins de temps et on va avoir des revenus en conséquence. Mais sur l'investissement, justement, au sein du réseau, pour commencer à générer des revenus pour des personnes, c'est vrai qu'en ce moment, vous l'avez dit, il y a énormément de personnes qui remettent en question leur avenir professionnel. Il y a eu les vagues de démission aux États-Unis, post-Covid, etc., en France aussi. Si demain, on rentre et on veut s'investir, en combien de temps on peut espérer avoir un revenu supplémentaire? Vous parliez tout à l'heure de l'immobilier, c'est pareil en réseau. Les IAD, par exemple, je ne sais pas si c'est un réseau multimarketing level, mais en tout cas, ils ont un petit peu une approche comme vous. Ils prennent des personnes, il n'y a pas besoin de diplôme. Ils exercent sous la carte T du représentant. Ils ont une petite formation, etc. Et après, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils doivent développer leur business avec des outils, des formations, etc. etc. Et pour avoir des premiers résultats, dans ce cadre-là, ça paraît clair pour beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, pour faire une transaction, l'immobilier, c'est assez long, etc. Il faut rentrer des mandats, ensuite les mettre en publicité, ensuite aller à la vente, signer le compromis, il y a les délais, etc., etc. Donc, les premiers résultats vont intervenir qu'au bout de 6 mois, si on est bon, voire 1 an, 2 ans, en fonction du travail qu'on fait. Dans votre cas, en combien de temps on peut espérer d'avoir des résultats concrets ?
Pour avoir des résultats concrets, Ismaël, tout dépend de l'objectif de chacun. Voilà. Moi, très clairement, quand je suis rentré dans le début d'activité, la question qui m'était posée, c'est combien de revenus je voudrais générer par mois. Et j'avais dit au bas mot, de mémoire, 300 euros. Voilà, 300 euros. Avec petite ambition, j'étais à temps partiel, etc. Voilà. Bon, dès le premier mois, c'était fait, en fait. Voilà. En y passant 5 heures par semaine, pour le coup. Et là, c'est, je me suis dit, mais tiens, si en y passant 5 à 10 heures par semaine, je suis en capacité à générer 300, 500 euros par mois, c'est-à-dire que si j'y mets un peu plus, pour le coup, potentiellement, je peux aller chercher des niveaux de revenus de 1000, 2000, 3000 euros par mois, pour le coup. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné, j'ai une grosse accélération qui fait qu'en un an, pour parler vraiment concret, Ismaël, à temps partiel, et vraiment, quand je dis à temps partiel, c'est que j'ai un billet de Paris, et en plus, 2 filles et un chien à gérer. Donc,
le temps d'y et une épouse.
Et une épouse aussi à satisfaire pour le coup. Et pour parler vraiment dans le concret, première année sur des commissions, j'avais touché pas loin de 10 000 euros de commissions, ce qui représente tout de même à peu près 800 euros par mois pour le coup. Et c'est qu'un début, parce que là, on amorçait la pompe. Voilà. Et là, deuxième année, boum, rebelote. Et là, troisième année, c'est l'effet de levier. On va augmenter, puisque je consacre beaucoup plus de temps, mais augmenter mes revenus. Et ce qui va être super, c'est qu'il ne faut pas que les gens ne soient crédules vis-à-vis de ça. C'est pas juste 5 heures par semaine et je vais devenir millionnaire. Non, non, c'est pas de fausses promesses. Au début, il faut s'engager. Au début, il faut passer du temps, il faut se former, il faut passer à l'action. Mais ce qui va se passer au fil du temps, c'est qu'en fait, le rapport temps-argent va s'inverser. À un moment donné, en fait, il y aura de moins en moins à faire d'efforts et en revanche, ma courbe de revenus va augmenter. Et c'est ça qui est intéressant. Mais bien sûr, bien évidemment, pour tes auditeurs, au début, c'est comme tout. Si les sociétés sont prêtes à me payer 100 000 euros par mois, eh ben, j'y vais passer du temps pour qu'elles me payent 100 000 euros par mois. Voilà, il n'y a rien de magique dans ces activités. Mais en revanche, voilà, on peut amorcer. On peut amorcer. Et tu parlais d'immobilier. L'immobilier, pour le commun, c'est long. On va s'engager sur un crédit à 20 ans. Voilà. Potentiellement, si on ne paye pas une bonne affaire, on n'est pas forcément dans du cash flow, donc on va devoir payer de notre poche tous les mois. Pour potentiellement dans 20 ans, on est fini de payer les crédits et ah, ça y est, on va toucher nos 500, 700 euros de loyer par mois. Et ce qui est bien avec le marketing relationnel, en termes de risque, peanuts, on peut démarrer à partir de 30 euros. On a tout l'accompagnement, la formation et après, on peut être très vite rentable en fait. Très, très vite. Si on parle de rentabilité, on peut être très, très vite rentable et au bien mot, on s'essaye, on peut s'arrêter quand on veut, enfin, aucun engagement financier qui va nous mettre à mal, en fait. Il y a juste, en fait, à gagner. Voilà, si on se met en action.
Ok, ça, cool. Donc...
Pardon.
Vas-y, je t'en prie, Dominique.
Ouais, là, pour rebondir par rapport à ta question aussi, moi, j'aime bien, quand on fait nos présentations, parce qu'on considère plus qu'on a un rôle d'éducateur, parce qu'en fait, les gens n'ont pas la bonne information. C'est-à-dire que 90%, moi, je considère vraiment qu'il n'y a pas de hors-cible. Tout le monde devrait avoir une activité dans ce milieu-là, parce qu'on apprend plein de trucs. Mais je dirais que ces sociétés-là ont compris que elles ont découpé, en quelque sorte, ce qu'il fallait payer pour une organisation qui tourne. Et si tu prends du recul, et je pense que ça va parler aussi à tes auditeurs, il y a 4 choses à payer, si tu veux une entreprise. Il faut payer les ventes. Si t'as pas des vendeurs, c'est compliqué. Donc, les ventes, en général, dans ces sociétés, vont être payer entre 30 et 50% du chiffre d'affaires que tu fais. Donc, quelqu'un qui est fan de vente et qui pourrait être équipé avec des sites e-commerce pourrait aller chercher globalement entre 30 et 50%. Donc, globalement, tu vends pour 1000 euros de produits, tu vas te faire une com de 300 euros. Voilà. Tu vends pour 10 000 euros de produits, tu vas te faire une com de 3000 euros. Voilà. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, tu pourrais aussi payer les gens, si tu te mets dans la peau de l'entreprise, pour l'apport d'affaires. Tu sais, ça, c'est le marketing, c'est les leads. Les gens, moi, j'ai bossé dans la finance, je peux te garantir qu'on payait très, très cher l'apport d'affaires. C'était très, très bien rémunéré, l'apport d'affaires. Eh bien, ces sociétés vont te payer en moyenne 200 euros si tu sais amener un bon contact à la table. Et grosso modo, là, ça devient... Tout le monde peut faire ça. Grosso modo, tu discutes avec un pote qui en a marre de son travail, son employeur l'ennuie, et tu lui dis, écoute, je sais pas si ça peut avoir de la valeur pour toi, mais moi, je connais des gens qui sont en train de rechercher des profils comme le tien. Tiens, je te mets en relation, on organise une réunion tranquille. Ou bien, tiens, regarde une vidéo, parce qu'évidemment, on utilise beaucoup ce qu'on appelle des funnels ou des tunnels aujourd'hui d'information qui font le boulot pour toi, quoi. C'est-à-dire des outils qui parlent à ta place. Donc, on a toute une agence... tout un volet agence qui met des outils digitaux dans les mains des gens. Donc ça, c'est le recrutement. Donc ça, c'est pour payer des gens à amener à la table de nouveaux partenaires. Et puis après, dans une entreprise, tu vas aussi travailler les volumétries. Tes fonctions commerciales, tu vas souvent les payer à la com. Tu vas les payer au volume. Donc, dans les sociétés avec lesquelles on bosse, on peut payer des gens à la com en moyenne 5% du chiffre d'affaires que tu développes en équipe. Donc ça, c'est génial. Parce que là, pour le coup, tu commences à imaginer quelqu'un qui voudrait gagner 5 000 euros par mois. Il faut que je fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires avec mon réseau pour gagner 5 000 euros par mois. Mais 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un réseau, ça fait peur à personne. Parce que là, tu peux organiser ton réseau comme tu veux, les ramifications. 100 000 euros, ça va peut-être dire que je vais bosser avec 10 partenaires qui font 10 000 euros chacun, parce que 10 fois 10, ça fait 100 000. Donc moi, il faudrait que je recrute et que j'anime 10 centres de profit qui font eux-mêmes 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je fais mes 100 000 euros avec mon réseau. Mais peut-être que c'est 1000 personnes qui font 100 euros. Peut-être que je veux juste parler, imagine un influenceur du web qui aurait des milliers de followers. Il va peut-être se dire, mais moi, j'ai peut-être avoir là 5 000 personnes qui pourraient m'acheter un produit en moyenne 100 euros par mois. Et ben, si j'ai 1000 personnes qui m'achètent un produit à 100 euros, ça fait 100 000 euros, c'est ça, je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça, on est bon.
Donc, ce qui est très intéressant, c'est que chacun va pouvoir trouver sa voie. Et après, il y a encore une quatrième voie pour les gens qui ont plus un profil manager, directeur généraux, stratège, organisation. Je te fais une analogie avec IKEA. IKEA, on pourrait imaginer parler d'IKEA au niveau du magasin et te dire, tiens, combien on va faire de chiffres en vendant des canapés ou des cuisines. Et puis, il y a une autre discussion qui consiste à implanter carrément plein de centres IKEA un peu partout. C'est pas la même discussion. Là, je vais implanter des carrément comme des succursales. Sauf qu'aujourd'hui, avec le digital, chacun d'entre nous, on est une succursale à part entière, puisqu'on peut devenir une tête de réseau à part entière. Donc, le gars, moi, on est pareil avec Fab. Ça a été vraiment une vraie rencontre parce que on a compris l'importance de la diversification, de l'effet de levier, ce qu'on appelle la scalabilité, pouvoir mettre à l'échelle ton business. Si tu sais faire un truc avec 10 personnes, bah, tu sais le faire avec 100 personnes, surtout à l'heure du digital. Aujourd'hui, on est capable d'aller sur LinkedIn, contacter des Français de l'étranger, leur dire simplement, écoutez, voilà, on travaille en partenariat avec une société qui veut s'implanter dans votre pays. Est-ce que ça vous intéresserait d'être un petit peu notre référent local? Nous, on va vous intéresser au titre de l'apport d'affaires et vous nous aider à rencontrer des gens qui ont peut-être la clientèle locale qui nous intéresse dans le secteur de la santé et du bien-être. Donc tout ça, c'est des méthodes, c'est très professionnel, ça s'organise. Mais de là, on est capable de permettre à des gens de tout à fait comprendre qui pourraient aussi générer des profits parce qu'ils ont des implantations à l'autre bout du monde qui génère ces profits-là. Voilà, donc des métiers différents, des stratégies différentes, des ambitions différentes. Tout le monde a sa place, c'est très inclusif, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, toutes nationalités confondues. Et ce qui est passionnant, c'est que tu vois, aujourd'hui, on croit qu'on est en pleine crise économique. Non, on est en plein renouveau économique. Et la problématique qu'on a chez nous, c'est pas tellement le business model ou fabriquer des revenus, c'est trouver des gens sérieux qui veulent s'engager. Parce que là, un peu comme un agriculteur, on va être dans de la gratification différée. Si demain tu fais de l'immobilier, il faut mettre un gros billet sur la table ou construire parce que tu vas pas avoir des locataires qui payent s'il n'y a pas d'appartement. Ben c'est la même histoire ici. Un peu comme un agriculteur, tu vas semer des graines, tu vas t'occuper des jeunes pousses, ça va devenir des arbres fruitiers. Et puis avec le temps, ils vont devenir autonomes au point que ton arbre va te donner des fruits à chaque saison avec un investissement minimum cette fois. Mais pourquoi ? Parce que tu auras au début accepté de travailler avec une gratification différée. Donc, c'est une stratégie moyen-long terme qui permet de créer des revenus passifs sans limite dans les possibilités de gains et qui parle à toutes les sensibilités professionnelles.
Très intéressant votre discours où j'entends en tout cas, il n'y a pas de fausses promesses qu'on peut des fois, parfois, entendre, en 2 semaines, vu que c'est accessible, tu seras riche à 1 million, etc. Ou ça demande pas spécialement d'efforts, donc c'est comme pour tout, il y a besoin quand même de se retrousser les manches, etc. Par contre, les intérêts que j'y vois comme ça, naïvement, moi, j'ai jamais participé à du marketing relationnel. Pour les auditeurs, en toute transparence, on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois en amont de cette émission, de la préparer. Donc, je vois très, très bien ce que vous faites, les méthodes, etc. Et ce que vous pouvez apporter aux gens. Mais voilà, ce côté accessibilité, ce côté il y a de la place un petit peu pour tout le monde. J'en reviens sur ces 3 métiers de base, mais élargis en fonction des compétences. Bah, tout le monde peut y trouver sa place en fonction de son engagement et puis de ses compétences aussi. On peut arriver à des résultats. Et Fabien, ouais, tu en es la preuve. Ouais, c'est intéressant.
Et pour compléter, pour parler de ce que tu dis aussi, Ismaël, le marketing de réseau a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que c'est très facile d'y rentrer en marketing de réseau, à partir de 30 euros, pour les plus ambitieux, à partir de 200 euros, voilà. Et c'est très facile d'y sortir. Et pourquoi je dis ça, c'est que au fond, les gens facile d'accès, et c'est dommage, ne se donnent pas les moyens de réussir. Et vont se dire, au pire, bon, bah allez, ça marche pas, j'ai perdu 200 euros. Voilà. Et c'est ce que tu vas retrouver comme témoignage sur le web, où on va te dire que bah j'ai essayé, ça marche pas. Et quand on pose la question aux gens de savoir, ouais, mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait en sorte que ça marche? Et là, on va dire, bah non. Combien d'heures tu as passé? Ah bah, j'ai passé une heure, enfin même pas. combien d'invitations tu as fait, combien de personnes tu as exposé ton produit. Ah ben non, j'ai pas eu le temps. Et au fond, en fait, on se retrouve avec des gens qui vont témoigner du business model, mais qui n'ont pas essayé de le faire fonctionner. Voilà. Et en revanche, par contre, je t'invite aussi, peut-être qu'on pourra organiser ta rencontre, à parler avec des gens qui ont réussi et qui vont expliquer leur parcours. C'est là où c'est dommage. Les gens ne creusent pas assez, ne se mettent pas en route parce que trop facile d'accès. On dirait, avec notre société, c'est 30 000 euros. En termes d'état d'esprit, moi, si j'investis 30 000 euros dans un business, autant te dire que je vais me retrousser les manches pour le faire fonctionner et aller très vite rentabiliser mon investissement. C'est comme tout, voilà. Et tu comprends bien que si, pour les gens, mettre 300 euros, se dire, bon, bah allez, un peu de procrastination et au fond, on se met pas en route et on se dira, bah au pire, j'ai perdu 300 euros, ça a pas trop changé ma vie. Voilà, ça, le petit point de nuance.
Et pour ton autre... Vas-y, je t'en prie, Dominique, et puis après, on verra sur quel statut on peut se développer, etc.
Pour ton audience, juste te dire aussi que c'est une société qui va payer votre histoire. Si vous êtes quelqu'un qui a été hyper professionnel, qui a été hyper attentif aux autres, c'est une société où on va surtout valoriser les soft skills. C'est-à-dire que, voilà, si vous êtes quelqu'un qui est reconnu comme quelqu'un de fiable, qui a déjà peut-être déjà une organisation, moi j'ai vu des gens gagner 7000 euros dès la première semaine et j'ai vu des gens passer 3 ans et ne rien faire, donc ne rien gagner. Donc là, c'est vraiment, c'est la confiance en soi aussi, sachant que ça va se travailler. Mais du coup, on a monter nous des formations ou parce qu'on n'est que sur des statistiques, hein. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Jean-Jacques Goldman qui dit on échappe à la police mais pas aux statistiques. Donc faut savoir qu'un professionnel du network marketing, il va gagner en moyenne au niveau international, ça c'est les stats internationales, 20 000 euros par mois. Ça c'est les professionnels. Il y a des gens qui gagnent jusqu'à 1 million par mois, hein, dans cette activité-là, parce que c'est lié, alors c'est pas juste parce qu'ils sont sympas, c'est parce qu'ils ont monté une organisation commerciale qui développe des millions de chiffres d'affaires pour la société en question. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, nous, ce qu'on a mis sur pied, on estime qu'aujourd'hui, gagner un salaire récurrent de l'ordre de 5 000 euros par mois, c'est un salaire de cadre, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose avec un engagement moyen sur au moins un mi-temps, par contre. Hein. On peut aller chercher en 12 mois, à travers les formations qu'on amène, sur des possibilités de se référer au plan de rémunération de l'entreprise. Donc, pour un professionnel qui viendrait même à mi-temps, ça serait un benchmark à aller chercher. Voilà.
Ok, d'accord.
Et pour ça, l'investissement, alors on peut rentrer avec une licence à 30 euros, mais si on veut être sérieux dans le business, on va plutôt recommander pour des gens, grosso modo, les gens qui veulent s'investir moins de 10 heures et qui cherchent un revenu de moins de 1000 euros, avec grosso modo une licence à 30, entre 30 et 300 euros, ils vont avoir tous les outils pour bosser. Quelqu'un qui maintenant veut bosser plus de 10 heures par semaine et générer un billet de plus de 1000 euros par mois, dès qu'on veut dépasser les 1000 euros par mois de récurrence, là, il faut prévoir un investissement entre 1005 et 2000 euros, plus après tous les à côté, avoir un petit ordinateur, etc. Mais ça n'aura jamais rien à voir avec ce que coûterait la création d'une entreprise classique.
Ok, d'accord. Et dans ce que tu évoques, j'imagine que ça peut être progressif. Si la personne peut rentrer par, entre guillemets, la petite porte au début, peut après, en fonction de ses objectifs et de l'évolution, de voir et puis d'augmenter un petit peu tout ça.
Et c'est souvent comme ça que ça se passe. En effet, on rentre en se faisant sa propre idée et on prend une vraie décision quelques mois plus tard parce qu'on a compris que là, ça méritait peut-être qu'on y passe un petit peu plus de temps.
Quel statut on a indépendant comme ça rattaché au réseau?
T'as 3 familles de statuts, t'as ce qu'on pourrait qualifier de portage salarial. Donc ça, c'est un statut qui a été spécifiquement mis sur pied en France, qui s'appelle le VDI, qui est un statut sympa pour démarrer parce que c'est la société qui va payer les charges. Donc là aussi, encore une fois, pour ceux qui ont encore un doute sur la légalité, tout ça est parfaitement encadré par l'État. Ça, c'est le statut, on va dire, le plus ordinaire, alors qui est pour moi, en termes de création d'entreprise, un peu un statut vraiment d'attente. Donc ça, c'est vraiment le truc parce que on n'est pas vraiment autonome, c'est l'entreprise qui paye les charges. Après, tu as la micro-entreprise ou finalement l'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est sympa parce que tu peux d'ailleurs avoir... Moi, je recommande à tout le monde d'avoir une activité en parallèle d'un job hein, ou de la retraite. On parle de plus en plus de double activité. Et avec ce statut-là, l'avantage, c'est qu'on peut encaisser des commissions issues de diverses sociétés, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne va pas récupérer la TVA et qu'on ne va pas pouvoir déclarer ses charges. Donc très vite, si on veut faire quelque chose de sérieux, c'est sympa d'avoir une société SAS ou SARL, donc si on est tout seul, SASU ou SARLU, et qui va permettre là de récupérer la TVA, déclarer les charges. Et quand on a une activité qui se construit à domicile, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut mobiliser une pièce de la maison, se payer un loyer à soi-même. Donc il y a toute une logique économique et fiscale. Et je recommande un bouquin qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle, on en parlait en préparation, qui explique un petit peu toute cette dimension stratégique et fiscale, parfaitement légale hein, du reste, mais qui permet, quand on crée une entreprise à domicile, de rien lâcher, quoi. Voilà. Et ça peut se faire aussi en parallèle du Pôle emploi, parce qu'on a des accords avec le Pôle emploi pour permettre aux gens de se tester. Tant qu'ils n'encaissent pas leurs revenus, il n'y a pas de problème avec la possibilité de tester une entreprise en parallèle de ces périodes-là.
Ouais, d'une façon générale, mais merci pour cet éclairage, mais d'une façon générale, en effet, avant de penser à créer une société, créer une boîte, etc., il y a déjà des manières, à mon avis, la philosophie, c'est faisons avant, une fois que ça fonctionne, structurons-nous, et c'est vrai que le statut de la micro-entreprise, en ce sens, est très très facile, en trois clics sur Internet, pour rien du tout, on a la boîte, et puis après, si ça fonctionne et qu'on a besoin, en effet, de grossir et de structurer tout ça, il y a la possibilité de créer des sociétés OK pour ça. Écoutez, en tout cas, merci. On a fait, je pense, un tour assez complet, même si j'imagine qu'il y aurait encore énormément à dire sur le marketing de réseau d'une façon générale et DG Partners aussi en particulier. Je souhaiterais vous demander à l'un et à l'autre, est-ce que vous auriez éventuellement, tu en as cité Dominique, mais peut-être des ressources de lecture, notamment à travers que ce soit le marketing relationnel, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la gestion de ses finances d'une façon générale ou toute autre chose, hein, même plus philosophique si vous le souhaitez, des lectures qui vous ont impacté, que vous pouvez recommander d'une façon générale à vos amis, à vos contacts, etc.
Bon, pour moi, Ismaël, la vraie révélation et où j'ai pris une claque en fait vis-à-vis de ma situation, ça a été Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki qui m'a fait ouvrir les yeux en fait et sur ma situation. Et le suivant, le cadran du cash flow, on va rentrer plus dans le détail des profils types quand je suis salarié, indépendant, travailleur autonome comme il dit, ou propriétaire d'entreprise ou investisseur. Et d'ailleurs, hein, pour ceux qui lisent Robert Kiyosaki, vous verrez dans le cadran du cash flow quand il parle des propriétaires d'entreprise, il parle de marketing relationnel, fait référence au marketing relationnel et de son point de vue, considère que c'est l'un des meilleurs systèmes qui nous amène des revenus récurrents. Voilà. Comme moi qui l'ai dit, c'est lui.
OK, super intéressant.
Et moi, je recommanderais Darren Hardy. Tu vois, j'ai adoré l'effet cumulé, cette manière en fait d'acquérir une certaine forme de discipline, taper toujours sur le même clou et par effet de ricochet, au bout d'un moment, les fameux intérêts composés qui font la suite. Donc, il y a plein de choses à comprendre là-dessus, aussi bien l'effet cumulé des bonnes habitudes que l'effet cumulé des mauvaises habitudes qui donne cette conviction aujourd'hui que les gens ont ce qu'ils ont parce qu'ils font ce qu'ils font et ça nous remet tous dans une responsabilité individuelle. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, il y a des situations des fois complexes, mais grosso modo, le message d'espoir, moi, que je vais envoyer aux gens, c'est que il n'y a pas de fatalité en 2022, le monde est à un claquement de doigts, est à un clic de n'importe quelle option, on peut apprendre plein de choses gratuitement sur LinkedIn, il y a plein de sociétés qui veulent vous former gratuitement, et donc, voilà, l'effet cumulé, si vous vous mettez à faire suffisamment longtemps la même chose, vous aurez forcément des résultats que les autres n'ont pas, voilà.
Ouais, super intéressant, toutes des lectures que je pourrais également à titre personnel recommander, que j'ai lu, j'ai pris plaisir à lire, et notamment sur l'effet cumulé, en effet, avec cette approche aussi du temps long qui peut des fois se perdre à l'heure de la digitalisation, d'Internet, du Web 3.0, où tout va extrêmement vite, où on veut tout de suite des résultats immédiats, etc., etc., et le fait de travailler comme ça dans la bonne direction avec un temps long, ben on obtient des résultats, comme tu dis, que d'autres peut-être n'ont pas, et voilà. Très, 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 très inspirant. Pour rester un petit peu là-dessus sur les missions de vie, et puis après, je vais devoir vous laisser. Je sais que vous êtes pressé également, et je vous remercie encore d'être présent ce matin. Du coup, est-ce que vous auriez peut-être également une petite une citation, un petit mantra que vous pourriez vous répéter d'une façon assez récurrente, et pourquoi ?
Moi, j'en ai une, Ismaël, de Zig Ziglar, qui correspond vraiment au modèle du marketing réseau. C'est « Le secret de la prospérité, c'est d'aider le maximum de gens à obtenir ce qu'ils souhaitent vraiment. » Voilà.
OK.
C'est beau. Et moi, c'est Mark Twain, qui est assez connu. C'est « Il ne savait pas que c'était impossible. alors ils l'ont fait, parce que je pense que trop souvent, les limites que l'on croit avoir sont celles que l'on s'est vendu à soi-même. Et parfois, d'un claquement de doigts, si je défais mes limites, je peux me rendre compte que quelque chose qui me paraissait impossible, en fait, ça l'est. Donc peut-être ouvrir les yeux et être curieux sur comment font ceux qui obtiennent ce que moi je voudrais obtenir, et ça peut créer de belles aventures humaines.
Ouais, super inspirant. Merci. Pour celles et ceux qui souhaiteraient pouvoir vous retrouver, alors vous êtes présent sur LinkedIn, vous avez le site DG Partners, etc. Aussi, je mettrai différents liens en référence de l'émission, notamment sur les différents sites que vous avez pu évoquer, que ce soit pour les statistiques, les références, etc. Et celles et ceux qui souhaiteraient même aller plus loin et franchir le pas, où c'est qu'on peut vous retrouver?
On peut très simplement, et on te fournira bien évidemment un lien, carrément proposer une réunion d'information pour ceux et celles qui le souhaitent, ou en premier prise de contact. Donc on prend même Calendly ou voilà, ou carrément organiser une réunion d'information, et comme ça on pourra informer plus en détail ce que c'est le marketing de réseau, la société avec laquelle on collabore, et vérifier avec chacun d'entre vous si vous aurez un intérêt à poursuivre et peut-être évoluer dans ce modèle économique.
Bon, super inspirant. Écoute, avec grand plaisir pour pouvoir mettre tous les liens et puis organiser ça tous ensemble une prochaine fois. Écoutez, Fabien, Dominique, mille merci pour votre temps ce matin, pour avoir dégrossi un petit peu ça, cassé les idées reçues de ce beau business model. Et en tout cas, je vous souhaite, et j'ai aucun doute, pleine réussite sur le développement, continuer de développer votre belle société. Et je vous laisse à ce titre le mot de la fin pour conclure cette belle émission.
Moi, pour conclure, c'est moi qui te remercie, Ismaël, pour cette invitation et cette possibilité que tu nous donnes de s'exprimer sur ce marketing de réseau qui, en France, voilà, a encore mauvaise presse. Quoique, plus on évolue et plus on s'aperçoit que des gens s'ouvrent à ces modèles-là, donc, et c'est tant mieux pour le coup. Donc, très ravi d'avoir partagé ce moment avec toi. Et puis, à très vite pour peut-être d'autres sessions de podcast.
Mais oui, et puis moi j'ai envie de lancer un appel et une invitation à ton audience. Le top du top, ça serait de se refaire une interview dans quelques semaines ou dans quelques mois avec des gens qui ont entendu cette interview grâce à toi, et de venir avec un témoignage de l'intérieur montrer comment des personnes qui ont découvert ces possibilités s'épanouissent dans ce contexte-là. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que les témoignages et la vraie vie. Donc merci encore pour ces initiatives, parce que tu prends part, toi, à ouvrir en quelque sorte les possibilités aux gens, et je trouve que dans cette période-là, c'est la chose la plus importante.
Bon, super, le rendez-vous est pris, Dominique, impeccable. Écoutez, mille merci encore, merci à toutes et à tous pour votre écoute, merci pour votre confiance, et puis vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter, à prendre part à ce podcast, La Bonne Fortune, donc qui est là pour voir de traiter de tout ce qui est de la finance personnelle, du développement personnel également, et puis de l'entrepreneuriat aussi au sens large. Merci à tous et à très très vite. Ciao, ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission, et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao !